Bonsoir. Le rassemblement de l'opposition refuse d'accompagner un processus électoral dans son chemin actuel qui préfigure selon lui une parodie de scrutin déjà gagné d'avance. Déclaration vendredi dernier à Kinshasa par le secrétaire général de l'UDPS à l'issue d'un échange entre la commission électorale de la SADC et les leaders du rassemblement de l'opposition. Pour cette dernière, le processus électoral est en panne suite notamment à la non-application à la lettre de l'accord de la Saint-Sylvestre et à l'imposition de la machine à voter. Quelle analyse faire du processus électoral en cours en République démocratique du Congo au regard notamment de cette déclaration du rassemblement? C'est la question au débat ce soir et pour en parler, nous serons avec Laurent Batoumona, député national de l'opposition élu de Kinshasa, mais également président du parti Mouvement de Solidarité pour le Changement, MSC en sigle, président de la plateforme Front du Peuple et membre du rassemblement. Laurent Batoumona en studio de Radio Okapi, bonsoir.
Bonsoir monsieur le journaliste.
Gilbert Mouika qui doit en principe nous rejoindre dans ce studio. Bonsoir Gilbert Mouika. Il devrait nous rejoindre dans quelques minutes. Il est premier coordonnateur adjoint du centre de coordination des élections de la majorité présidentielle. Gilbert Mouika, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à notre émission. Et enfin, Christian Moleka, analyste et coordinateur de la dynamique de politologue de la RDC. Christian Moleka, bonsoir.
Bonsoir.
À tous, bienvenue dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78. Et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Le rassemblement de l'opposition refuse d'accompagner un processus électoral dans son schéma actuel qui préfigure selon lui une parodie de scrutin déjà gagné d'avance. Déclaration faite vendredi dernier à Kinshasa par le secrétaire général de l'UDPS à l'issue d'un échange entre la commission électorale de la SADC et des leaders du rassemblement de l'opposition. Pour cette dernière, le processus électoral est en panne suite notamment à la non-application à la lettre de l'accord de la Saint-Sylvestre mais aussi à l'imposition de la machine à voter. On écoute Jean-Marc Kabound au micro de Pascal Masirika.
Là, nous avons déposé nos listes à la députation nationale, mais cela ne voudrait pas dire que nous allons accompagner le processus électoral dans son état actuel. Nous continuons à poser des préalables. Si ces préalables ne sont pas rencontrés, sincèrement, nous leur avons dit que nous nous abstiendrons d'accompagner une fraude électorale. Parce que ici, tout est mis en place pour un dénouement catastrophique du processus électoral. Et nous ne voulons pas accompagner un processus électoral qui débouchera sur des pertes en vies humaines ou des contestations qui plongeront le pays dans un chaos parce que déjà le peuple congolais souffre. Nous leur avons dit que il est hors de question pour nous de participer aux élections avec la machine à voter où la loi électorale n'autorise pas l'usage de la machine à voter. Le calendrier ne fait nulle part mention de la machine à voter. C'est une façon de provoquer le peuple congolais et d'organiser la fraude à travers cette machine.
Laurent Batoumona, député national de l'opposition, élu de Kinshasa, mais également président du parti Mouvement de Solidarité pour le Changement, MSC en sigle, président de la plateforme Front du Peuple et membre du rassemblement. Laurent Batoumona, dans l'extrait que nous venons d'écouter, c'est le secrétaire général de l'UDPS qui parle. A-t-il, selon vous, traduit fidèlement la pensée du rassemblement auquel vous appartenez aussi?
Exact. C'est une déclaration véridique. Je me rappelle avoir pris part à cette réunion qui s'est tenue à l'hôtel Béatrice, où nous étions avec l'honorable Lutundula, Madame Adikoko, le secrétaire général de l'IDPS, le secrétaire national exécutif Augustin Kabuya, Peter Boissa, qui était là avec Christopher Ngoy. Et là, nous avions fait l'état de lieu du processus électoral avec la délégation de la SADC. Et nous avons dit que il y a beaucoup de problèmes qui se posent aujourd'hui, bien que le processus électoral est lancé. Nous avions déposé les candidatures des députés provinciaux. Dans une semaine, nous allons aborder ceux de la députation nationale. Et nous avons dit qu'au stade actuel, il y a beaucoup d'écueils qui sont devant nous. Il y a d'abord l'accord de Saint-Sylvestre qui n'a jamais été appliqué. ou d'une manière sélective. La décrispation politique n'a jamais eu lieu. La libération des prisonniers politiques emblématiques n'a jamais eu lieu. Le retour des exilés politiques n'a jamais eu lieu. Et la RTNC, elle est privatisée par la majorité présidentielle, donc le FCC. Et enfin, nous avions dit qu'il y a près de 10 millions d'électeurs qui constituent une réserve pour la majorité présidentielle de pouvoir acquérir d'un trait près de 100, plus de 100 députés nationaux et plus de 150 députés provinciaux. Voyez-vous, dans un pays où nous sommes autour de 40 millions, et l'écart de cette population qui a été enrôlée ne dispose pas des empreintes digitales. Ça, c'est déjà un gros problème. Le dernier problème, comme l'a déclaré le secrétaire général de l'UDPS, c'est la question de la machine à voter. Nulle part dans la loi électorale, on parle de la machine à voter. Et là, soudainement, la majorité, ainsi que le président Corneille Nangaa, font sortir l'idée de pouvoir lancer la machine pour permettre à ce que les voix soient comptées. C'est pour dire que nous ne pouvons pas accompagner ce processus dont les résultats sont déjà connus d'avance.
C'est ce que la déclaration dit, Laurent Batoumona. Mais avant qu'on aille plus loin, est-ce que vous qui avez discuté avec eux, quand je dis eux, c'est la délégation, était constituée de plusieurs personnes, quand vous avez discuté avec cette délégation de la commission électorale de la SADC, ils vous ont dit qu'ils voulaient savoir quoi exactement, parce que il n'y a pas de crispation, tout le monde le dit, il y a des accords sur la machine à voter, il y a suspicion autour des électeurs fictifs dans le fichier électoral, tout ça c'est connu. De quoi devriez-vous parler?
Bon, il faut dire que cette délégation, ce n'est pas la première fois que nous les rencontrons. Nous avions passé des nuits très longues avec eux dans... certainement au mois d'octobre 2016, quand l'accord de Saint-Sylvestre était en train d'être négocié. Et nous avons toujours considéré que cette délégation de la SADC, c'est un appendice qui est en train de soutenir le gouvernement du président Kabila. Parce que, je me rappelle à l'époque, ils nous demandaient que nous puissions leur donner trois noms pour la nomination d'un premier ministre. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'accord ne les prévoyait pas, mais c'est eux qui voulaient à tout prix.
Et cette fois-ci, c'était quoi leur message?
Cette fois-ci, ils voulaient savoir est-ce que nous allons aller aux élections. Oui, nous avons dit oui, nous sommes prêts à aller aux élections parce que nous ne pouvons pas tomber dans les pièges de la majorité qui croyait que nous allons nous en abstenir. Mais nous avons dit que nous sommes prêts à aller aux élections, mais pas une élection pour deux élections, élections.
Alors, Laurent Batoumona, votre déclaration semble un peu ambiguë. Vous allez déposer quand même vos candidatures respectives pour ces élections. Vous dites vous n'allez pas accompagner. Est-ce que clairement, ça signifie que le Rassemblement ne veut pas participer aux élections?
Nous allons participer aux élections sans la machine à voter et l'extraction des 10 millions d'électeurs qui figurent sur les fichiers électoraux.
Et, comment l'opposition compte-t-elle faire pour élaguer cet élément qui, pour le moment, reste partie prenante du processus actuel?
Vous savez que l'OIF avait rendu public son rapport où il avait demandé à la CENI de pouvoir parfaire les fichiers électoraux. Et jusqu'à aujourd'hui, cette commission de suivi n'a jamais été mise à l'œuvre pour pouvoir... demander à la CENI d'abord de pouvoir convoquer ces personnes dont les empreintes digitales ne figurent pas, bien qu'ils avaient lancé des poursuites judiciaires pour ceux qui avaient de l'âge qui n'avaient pas encore atteint la majorité et les doublons. Mais pour ces cas précis, jusqu'à aujourd'hui, la CENI n'a pas branché. Et nous disons que ces 10 millions-là doivent être élagués pour que nous puissions avoir des élections fiables. Dans les cas contraires, nous allons prendre des dispositions.
Il y a ceux qui prévoient ou qui recommandent plutôt, au lieu de les élaguer, il faut plutôt trouver la vérité de ce fichier en publiant tranquillement les noms, la liste de ce fichier électoral, tout simplement.
Monsieur le journaliste, une fois j'ai suivi le président Nangaa disant que ces personnes-là, ce sont des personnes qui sont affectées aux travaux durs. Nous avons des mamans qui cassent les pierres à Kintuka. Nous avons des maçons qui travaillent sur les chantiers en train de manipuler les moellons. Mais leurs empreintes digitales figurent. Imaginez-vous qu'on a arrêté un secrétaire particulier, d'un ministre, avec tant de cartes électeurs, et sans pouvoir dire qu'il y a 2 millions de cartes électeurs qui sont disparues.
C'est un peu dommage, nous reviendrons à vous dans la deuxième partie de votre prise de parole, mais c'est un peu dommage que vous puissiez nous révéler ici qu'il y a des gens qui ont été pris avec des éléments compromettants et on ne sait pas si ces personnes ont été punies conformément à la loi. Et nous retournons donc vers Gilbert Mouika pour qui nous a rejoint en cours d'émission. Merci Gilbert de participer à cette émission en direct des studios de Radio Okapi. Vous êtes premier coordonnateur adjoint du centre de coordination des élections de la majorité présidentielle. Que vous inspire la déclaration du rassemblement?
Bien, merci d'abord pour l'invitation. Je salue mes co-débatteurs. Il y a un aîné parmi eux. Merci. J'ai beaucoup de respect envers lui. Je pense que il faut d'abord que je commence par nettoyer tout ce que vient de dire le président Laurent Batumona. D'abord, il appelle machine à voter. Je crois que au niveau de la sémantique, la CENI est revenue sur cette question en corrigeant. Maintenant, il faut comprendre que ce n'est pas une machine à voter, c'est plutôt une imprimante. Et si on en arrive là, c'était peut-être une question d'économie, parce que les élections coûtent très cher. L'ardoise qui a été présentée, je crois que c'est tout le monde qui a suffoqué en voyant le chiffre mirobolant présenté par la CENI. Et il a été demandé à la CENI, c'est entre politiciens, il a été demandé à la CENI de voir dans quelle mesure on pouvait revoir ou minorer les chiffres présentés. Et dans cette démarche, il est arrivé que la CENI puisse trouver justement cette issue qui consiste à imprimer la photo du candidat désiré par l'électeur au moment du vote, donc dans le bureau de vote. C'est comme ça qu'on a parlé de disons abusivement de la machine à voter, mais sinon c'est une imprimante. C'est une imprimante. Et c'est évidemment une procédure qui nous allège la tâche dans la mesure où, avec tout le livre que nous avions autrefois, même moi-même je crois que quand je suis allé voter en 2011...
Ce que vous appelez livre, c'est le document à plusieurs pages.
Voilà justement ces bulletins, ces gros bulletins que nous avions, c'est une première d'ailleurs dans l'histoire des élections à travers le monde. Je crois qu'aujourd'hui, avec la solution trouvée, le raccourci trouvé, ça nous aide non seulement à économiser l'argent, mais également le temps dans le bureau des votes.
Ça fait quand même, Gilbert Mouika, plusieurs mois que la CENI tient le même discours, mais malgré son discours, malgré ce que la CENI appelle les explications, on n'est pas encore arrivé au consensus de pouvoir accepter cette imprimante.
Je ne sais pas où vous voulez trouver ce consensus-là. Du moins, aujourd'hui, la CENI est en pleine campagne pour expliquer aux Congolaises et Congolais ce quoi exactement cette machine. Et du fond de l'intérieur du pays, tout comme dans la capitale, en tout cas après explication de la CENI, je n'ai jamais particulièrement enregistré des réclamations telles que « nous ne voulons pas de la machine à voter ». Ça c'est clair. Donc, toutes les déclarations autour de la machine à voter, c'est peut-être une certaine élite qui est en train d'en parler, mais au niveau général, au niveau de la population, en tout cas, à 90%, permettez-moi de le dire ainsi, à 90%, c'est tout le monde qui est d'accord pour que nous puissions prendre ces raccourcis-là.
Mais Gilbert Mouika, est-ce que vous n'avez pas eu le temps, à la majorité présidentielle, de tenir compte du fait que, déjà pour le simple téléphone, déjà pour les simples tablettes, déjà pour les simples instruments électroniques de la vie quotidienne, d'abord très peu des Congolais ont accès à la technologie, ensuite, même ceux qui en ont du mal à l'utiliser. Comment est-ce que les personnes illettrées, ces vieilles personnes s'en sortiront?
C'est pour ça justement qu'il y a cette campagne pédagogique de la part de la CENI pour dire aux gens comment utiliser cette machine. Et s'il faut aller en profondeur par rapport à votre question, je crois que je ne suis pas la CENI. Je suis partie prenante au processus au nom de la majorité présidentielle. Et là, je suis en train de donner un point de vue de la majorité présidentielle qui ne trouve pas d'inconvénient pour qu'on puisse recourir à la machine à voter.
Voilà, la machine à voter, c'est donc un seul point des problèmes évoqués par le rassemblement. Il y a aussi toujours, ils demandent une application à la lettre. Peut-être que ils sont trop rigoureux quand ils disent à la lettre, mais une bonne application de l'accord de la Saint-Sylvestre.
Mais je crois qu'à toutes ces revendications, il y a déjà eu des réponses qui ont été données.
Il y a un problème de décrispation. Beaucoup de
Mais quand vous parlez de décrispation, certainement vous visez les individus. Et c'est ça qui tue ce pays. Mm-hmm. Mais il faut, mais écoutez.
Dans cet accord, il y a des non-cités.
Quand on prend, quand on vire vers ce genre de situation, il faut que ça soit impersonnel. Mais dès lors que vous mettez les noms des individus, là, vous faussez la démarche.
Mais Jimmy Mouika, vous n'allez pas
être... Je vais vous dire...
Vous n'allez pas nier le fait qu'il y a des noms. La majorité présidentielle a signé cet accord avec des noms des gens bien précis. La majorité n'a pas ignoré qu'il y avait des noms dedans.
Ben écoutez, nous sommes en train de chercher à incruster la démocratie dans ce pays ici. Et quand déjà vous commencez à sauter, par exemple, les étapes judiciaires ou les étapes de la justice, je me demande comment est-ce que nous allons effectivement mettre en application les principes démocratiques dans ce pays ici. Vous parlez de la décrispation, certainement vous voulez parler des gens qui sont en prison.
Les cas emblématiques, c'est pas moi qui les invente. Bah, hein.
C'est vous qui appelez ça cas emblématique. Je ne veux pas être dur, pour parler des délinquants qui ont posé des actes qui ont énervé la loi par rapport évidemment au droit commun. Vous savez, il y a des faits pénaux qui ont été reprochés à certaines de ces personnes qui se retrouvent en prison aujourd'hui. Mais vous voulez enjamber cela. Mais quand vous enjambez cela, mais quelles que soient les conditions, à un moment donné, ça va vous rattraper. Parce que nous avons la jeunesse qui nous observe. Il faut pas oublier cela. Vous avez peut-être évoqué le nom de certaines personnes qui aujourd'hui se retrouvent en dehors du pays. Mais cherchez à comprendre pourquoi ces gens se retrouvent en dehors du pays. Ne nous voilons pas la face.
Au moment de l'accord, je rappelle un accord qui existe, signé par les deux parties.
Ne nous voilons pas la face.
Donc cela signifie que la justice
congolaise, d'ailleurs, par rapport à vous, je crois que c'est la justice qui est plus pressée pour retrouver ces gens-là. Ce sont des Congolais, on leur a dit que c'est leur pays. Il faut qu'ils reviennent dans ce pays ici, participer à la vie démocratique de ce pays.
Est-ce que cela signifie-t-il que l'opposition peut oublier sa demande d'appliquer correctement l'accord de la Saint-Sylvestre?
Ben écoutez, on ne doit pas faire un pas en avant et quatre en arrière. C'est inutile. Je pense que par rapport à cette procédure, vous savez d'où vient le Premier ministre actuel, vous savez d'où vient le président du CNSA, vous savez quels sont les arguties qui ont été utilisées pour mettre en place le gouvernement actuel. Donc, revenir sur ça, c'est en fait faire du surplace ou carrément faire plusieurs pas en arrière.
Merci.
Évoluons. J'étais en train de dire, parce qu'il fallait réagir quand même.
Vous allez avoir
par
la
rapport
parole.
À tout ce qui a été soulevé ici.
Il y a un temps de parole correctement réparti. Vous allez retrouver votre droit de parole tout à l'heure. Christian Moleka, analyste et coordinateur de la dynamique des politologues de la RDC. Vous avez écouté les uns et les autres. Comment trouvez-vous la position de vos prédécesseurs?
Merci pour la question. Je dirais d'abord que en Afrique, ce que nous appelons la démocratie à l'africaine, vous pouvez constater autour de nous, il est très difficile d'avoir un système de jeu qui soit un environnement qui soit favorable à quand qu'on appelle opposition. Ce n'est pas une réalité qui est propre en RDC. On peut l'observer également autour de nous. Et la réponse stratégique, ce n'est pas de quitter le jeu. On a vu par exemple au Sénégal. Macky Sall gagnait alors que le jeu politique n'était pas géré par ses partisans. On a vu en Côte d'Ivoire également le même scénario. Et donc, de mon point de vue, l'option de quitter le jeu politique n'est pas une bonne chose. C'est une stratégie qui peut tourner d'ailleurs en défaveur de l'opposition.
Donc, vous considérez que le boycott, par exemple,
le boycott n'est pas une bonne stratégie parce qu'on l'a vu en 2006, le boycott n'a pas payé l'opposition, l'UDP est revenu en 2011. Et déjà, si l'on observe le processus actuel avec les difficultés qu'il y a pour les autres challengers, Félix demeure l'un des challengers en place pour l'instant qui peut incarner une certaine cohérence à l'action de l'opposition. Et donc demain, voir l'UDPS qui se réclame être la première partie de la première force de l'opposition n'est pas un candidat, c'est ouvrir une voie royale à la majorité qui pourrait se taper 500 députés ou 400 députés. Et lorsque la majorité aura 400 députés, toutes les lois qu'on n'a pas pu faire passer passeront très facilement. Et donc, c'est à l'opposition de s'adapter à un environnement qui lui est hostile et à proposer des stratégies pour contrer la majorité présidentielle. Maintenant, admettons que ce qui a été dit ne soit qu'une stratégie qui ait pour finalité de mettre de la pression sur le gouvernement. Eh bien, c'est une stratégie que je trouve assez risquée. Parce que la majorité peut se décider à continuer sur cette voie a présenté ses éléments d'embûche pour pousser l'opposition vers la sortie. À un moment donné, c'est une stratégie très risquée. Je pense que de mon point de vue, l'opposition devait davantage travailler à œuvrer dans un environnement hostile, à rechercher les solutions, notamment pour la machine à voter. Le rapport de l'OIF ne parle pas que de 16%. Le rapport de l'OIF dit qu'il y avait 597 observateurs, soit 0,16% d'observateurs durant l'enrôlement. C'est-à-dire la société civile ou l'opposition a présenté moins d'1% d'observateurs. Or, on ne peut pas aller vers des résultats escomptés par tous ou des élections de bonne qualité si on n'aligne pas des observateurs, des témoins qui peuvent couvrir la République. Moi, je pense qu'il y a des moyens de contrer la machine à voter plutôt que de focaliser sur la machine. Parce que quand on focalise sur ces éléments de ces points de discordance, eh bien, on ne développe pas en stratégie pour aller plus loin. On a vu en 2011, la question était focalisée sur l'audit du fichier électoral et les serveurs. Ça n'a pas empêché qu'on ait des élections, puis ensuite il y a eu des contestations. Donc, de mon point de vue, c'est une stratégie qui n'est pas payante.
N'avez-vous pas l'impression que l'opposition n'a pas beaucoup d'arguments et ne compte que sur des déclarations? Parce que c'est un peu le constat qu'on fait pour le moment. Des déclarations et rien d'autre.
Il m'est difficile de lire à travers ce qui est dit une stratégie cohérente de la démarche de l'opposition. Parce que si l'on prépare un discours de contestation, eh bien, nous aurons des élections probablement au mois de décembre sans l'opposition, parce qu'il y a déjà un candidat qui a déposé, et donc il valide les processus, et après nous aurons de la contestation. Mais en même temps, il faut se demander à quoi servirait la République de mettre des millions de dollars pour aboutir à un processus contesté un peu comme au Kenya ou ailleurs. Je crois qu'il nous faut travailler pour plus d'inclusivité, et la CENI a intérêt à rechercher l'inclusivité, notamment. L'OIF propose également qu'on invite des observateurs pour auditer la machine, la fameuse machine à voter, afin de permettre qu'une expertise internationale puisse auditer la machine et rassurer les partenaires. Parce qu'un processus politique, c'est un processus qui se joue entre parties prenantes et qu'il faut construire un minimum de confiance pour aboutir à ces consensus-là.
Christian Moleka, on peut comprendre que la majorité pourrisse la situation, pousse l'opposition à bout jusqu'à la sortie, voire le boycott, mais comment analysez-vous le comportement de la CENI qui, c'est pas une affirmation, hein, c'est juste une tentative de constat, qui ne semble pas mettre tous les moyens qu'il faut pour avoir le consensus normal à une élection apaisée. C'est-à-dire aussi bien l'opposition que la majorité devraient être d'accord avec l'événement pour lequel ils sont concernés.
Personnellement, je n'ai jamais été d'accord sur ce modèle de commission électorale dite neutre. On l'a vu, 2006, 2011, jusqu'à maintenant, les processus ont toujours été contestés. Il faudra à un moment donné que nous revenions à des formes plus classiques, c'est-à-dire des élections organisées soit par le ministère de l'Intérieur, et que de rester avec des commissions électorales qui posent toujours de problèmes comme ça. Deuxièmement, je pense qu'à un moment donné, les acteurs, la CENI, n'apportent pas un discours qui rassure, notamment M. Corneille Nanga, qui de fois prennent des postures assez, je dirais, presque des docteurs qui enseignent aux autres. Lorsqu'on a la responsabilité de conduire toute une nation aux élections, il faut s'habiller d'un peu d'humilité pour écouter, mais éventuellement d'apporter dans des formes assez, je dirais, assez modestes, les réponses. Parce qu'on a comme le sentiment que dans les réponses que le président de la CENI apporte, il y a une once de suffisance et ça ne participe pas à construire la confiance.
Revenons à la déclaration du rassemblement. Vous les avez écoutés eux-mêmes, hein, et on les voit faire. Ils déposent bien les candidatures. Ils disent, hein, dans l'extrait que nous venons d'écouter, le secrétaire général de l'UDPS dit « Nous déposons les candidatures, mais nous ne voulons pas accompagner un processus biaisé. » Vous croyez qu'il y a des risques qu'à un moment ou à un autre, que ceux qui ne veulent pas faire, c'est-à-dire boycotter, qu'ils y arrivent et qu'ils boycottent effectivement?
Mais comment on va boycotter avec des candidats dont on a déjà aligné? Ce serait à un moment donné assez bizarre. Donc vous aurez des candidats qui seront sur le tableau de vote, qu'on ne voterait pas, qu'ils auraient zéro voix. Vous allez demander aux électeurs de ne pas aller à voter les candidats qu'on a alignés. Je crois que je dis que la stratégie n'est pas cohérente. Soit on travaille à œuvrer dans cet environnement hostile et donc à trouver d'autres mécanismes de contrainte de la majorité, notamment par la vigilance citoyenne électorale, en travaillant pour l'audit de la machine électorale, soit on prend le risque, comme en 2006, de quitter le processus, sachant qu'en quittant le processus, on ouvre une voie réelle à la majorité qui va se rafler 400 sièges.
On reviendra à vous tout à l'heure pour une autre analyse. Gilbert Mouïka, c'est votre deuxième tour de parole. Mais avant de reprendre la parole pour tout éclairer, nous allons suivre avec vous cette réflexion qui nous vient de Kisangani.
Sengangabo Paulin, depuis Kisangani, province de la Tshopo. L'idée de boycotter le processus électoral à ce moment à cause de la fameuse machine à voter et la non-application de l'accord de la Saint-Sylvestre n'est pas bonne. Tant plus qu'il n'y a plus du pain sur la planche. Bien sûr, la CENI est inféodée au régime en place, mais il est conseillé à l'opposition de faire appel aux experts internationaux indépendants pour venir balayer les fraudes massives déjà préparées par le régime en place. Quant à l'accord de Saint-Sylvestre, je pense que tous les sous-bassements de ce fameux accord, aucun n'a été respecté. Et l'accord lui-même n'a pas prévu une exception en cas de non-application, quelle sera la mesure applicable par les signataires. Donc, il est impérieux que la CENI écoute la voix de la classe politique, mais aussi et surtout celle du peuple congolais, car le but des élections est d'arriver à une alternance, une paix sociale dans laquelle chacun reçoit les biens et services nécessaires.
Gilbert Mouïka, toutes mes excuses. Nous allons plutôt passer la parole à l'honorable Baltimona, vu la configuration du débat depuis le début, pour respecter la cohérence. Alors, en un mot, vous avez suivi cette réflexion, mais c'est plutôt une recommandation que notre auditeur fait à la CENI. Vous n'êtes pas la CENI, mais comment trouvez-vous cette recommandation?
Bien, d'abord, les élections, c'est une question de confiance. Si la confiance n'est pas là, ça signifie qu'il y a suspicion de part et d'autre. Depuis que nous avions souhaité qu'il y ait des élections en 2015, vous allez constater que la majorité au pouvoir a multiplié les stratagèmes pour ne pas aller aux élections. Il a d'abord commencé par dire qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de ressources nécessaires, et nous avons payé nos cautions. Grâce à Dieu, la pression que nous avons mise, ça commence à payer. Aujourd'hui, il y a un communiqué du ministère de l'Intérieur qui dit que ces cautions peuvent être remboursées. Et encore que il faut rechercher ces preuves de paiement que nous n'avions certainement pas conservées depuis 2015. Donc, 5 ans après, on nous demande, monsieur, vous pouvez ramener vos preuves de paiement. Alors que les trésors publics peuvent retracer quels sont les partis politiques qui ont payé, combien de candidats on a alignés. Si les noms des candidats figurent sur un fichier quelconque, ça signifie que les cautions ont été payées. Donc, aujourd'hui, la majorité ou le gouvernement, quand il demande aux partis politiques de pouvoir apporter des preuves de paiement, ça signifie qu'il n'est pas prêt à pouvoir rembourser. Donc, nous retournons la solution pour dire que, en tant que trésor public, un gouvernement sérieux peut retracer tous les paiements qu'il a encaissés par rapport à ses cautions de 2015. Ça, c'est le 1. De 2, messieurs les journalistes, quand nous disons que c'est une question de confiance, la machine à voter est sortie quand cette proposition-là? Elle est sortie quand la majorité a estimé qu'il a une réserve de plus de 10 millions d'électeurs, plus 2 millions de cartes d'électeurs disparues. Ils se disent, voilà, nous pouvons organiser mieux la tricherie avec la machine à voter. La majorité dit que c'est une imprimante. Non, c'est pas seulement une imprimante. C'est un ordinateur avec des photos qui apparaissent. Le programme qui est dedans, personne ne sait le contrôler. Même s'il est certifié aujourd'hui, sans qu'il soit utilisé. Mais moi, j'ai vécu les élections en 2006, en 2011. Vous avez les candidats de la majorité qui transportent les urnes. Qu'est-ce qu'ils ne feront pas pendant tout ce parcours-là?
Laurent Baltimona, vous conviendrez avec moi que quand tout le monde pense à un boycott de l'opposition, ce n'est pas une invention de l'esprit. Vous ne l'avez pas dit, hein, dans vos déclarations, mais vous voyez très bien que dans les réactions de nos auditeurs, le mot boycotter, hein, c'est pas moi qui ai écrit. L'idée de boycotter le processus.
Nous exerçons une pression. Mm-hmm. Une pression sur le gouvernement.
Donc
une
il n'est nullement, il n'est nullement idée de boycotter.
Il n'y a pas 4 jours. Le gouvernement américain a donné sa position par rapport à cette machine. Si tout le monde est en train de décrire cette machine, comment seulement une classe politique
Alors, comment réagir à cette recommandation de cet auditeur de Kisangani qui dit l'opposition doit faire appel aux experts internationaux indépendants pour venir balayer
les fraudes? Les experts internationaux étaient là pendant 3 mois devant les portes de la CENI.
Bon, la communauté internationale, c'est pas seulement la SADC.
Mais c'est les journalistes. Je vous parle des experts qui étaient venus pour discuter les thèmes de référence, pour accompagner la CENI dans sa mission. Ils sont restés 3 mois devant les portes de la CENI et finalement, ils étaient fatigués. Ils sont repartis. À la demande de la CENI, l'OIF est arrivé. Il a fait des recommandations. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Elles sont lettres mortes. C'est pour dire que la majorité des gouvernements au pouvoir, la CENI, se range d'un seul côté. Et je félicite l'analyste Moleka qui dit que la commission... La CENI n'est pas neutre, elle n'est pas indépendante, parce qu'elle fait le jeu de la majorité. Aujourd'hui, c'est la majorité qui est favorable à la machine à voter, alors que nous disons que les élections, c'est une question de confiance. En 2006, monsieur les journalistes, il y avait des émeutes ici dans la ville. Pourquoi des émeutes? C'est parce qu'il y avait des conflits post-électoraux. Est-ce que nous allons encore vivre ce scénario où les Congolais sont victimes des assassinats, tels que nous l'avions connu avec les différents marches que l'opposition a fait organiser? Non. Nous disons que le sang du Congolais a trop coulé. C'est déjà assez. Voilà pourquoi nous disons que les élections, c'est une question de confiance.
Merci Laurent Batoumona, nous reviendrons à vous. Finalement, nous arrivons à Gilbert Mouika. Toutes nos excuses, mais c'est aussi ça la règle du jeu. Il faut respecter une certaine cohérence. Alors, pour vous, ce commentaire de notre auditeur de Maniema.
Zachary Kingombe depuis Kampene au Maniema. La position prise par le RASOP par rapport au processus électoral est logique au regard de la manière dont ces derniers avancent. Le peuple congolais attend des élections apaisées, inclusives, transparentes et démocratiques. Ce genre d'élections doivent indubitablement passer par le respect de la Constitution et de l'accord du Saint-Sylvestre, aussi sur le consensus par rapport aux questions plus faciles, notamment la machine à voter. Hélas, le gouvernement s'illustre par la violation de la Constitution, de l'accord du centre interdiocésain et même de la loi électorale qui ne prévoit pas, par exemple, l'utilisation de la fameuse machine à voter. Pire encore, la CENI, l'institution censée jouer le jeu d'apaisement et de confiance, brille malheureusement par l'arrogance inconsidérée et l'impartialité sans précédent. En guise de ces actions, j'invite le gouvernement au respect de la Constitution et de l'accord du salut national et recommande la CENI à trouver un consensus autour de la machine à voter dans le but d'éloigner les Congolais des élections qui mettraient leur pays à feu et à sang.
Premier coordonnateur adjoint du Centre de coordination des élections de la majorité présidentielle, Gilbert Mouika. Le mot apaisé revient régulièrement dans ce débat et tout le monde l'évoque d'ailleurs. Mais on a l'impression que le langage de sourds continue entre l'opposition et la majorité.
Non, mais je crois que effectivement le mot apaisé, c'est ça qui conduit apparemment la démarche de tout le monde présentement. Il faut noter que dans le processus actuel, c'est tout le monde qui cherche à manger un gâteau bien cuit. Or, pour en arriver là, il faut absolument respecter le principe, notamment la température au niveau du four. Quand vous augmentez la température au niveau du four en énervant évidemment les principes, vous allez avoir au finish un gâteau qui sera brûlé et vous ne saurez plus le manger.
Et dans notre contexte, c'est comme ça qu'est-ce qui est four, oui, qu'est-ce qui est gâteau?
Oui, dans notre contexte, en fait, c'est le respect de la démarche. Il y a eu des préalables qui ont été, je dirais même, négociés entre parties. Quand on parle de l'accord de la Saint-Sylvestre, parce que la Constitution ne s'en négocie pas. Quand on parle de l'accord de la Saint-Sylvestre, ce sont les parties qui se sont retrouvées. Avec des mandats évidemment fictifs, hein, parce que ce n'est pas, je ne pense pas qu'il y a eu une organisation pour désigner ces gens qui sont allés négocier là-bas. Mais, de bon cœur, on a accepté cela. Ok? La population, je parle de la population, a accepté cela. Et je vous ai dit tout à l'heure que revenir sur tout ce qui a été dit, c'est vraiment faire plusieurs pas en arrière. Dans la mesure où on a voulu un gouvernement d'union nationale, le gouvernement, il est là, dirigé par quelqu'un qui est venu de l'opposition. Et quelle opposition? C'est de l'UDPS. Qu'on le veuille ou pas, ces messieurs, il a toujours milité dans l'UDPS.
Mais après, il a été contesté et il est encore contesté jusqu'à aujourd'hui.
Ceux qui les contestent ne connaissent pas son fort intérieur. Mais je crois que ces messieurs, même si aujourd'hui les fondateurs peuvent revenir sur cette terre des hommes, ils le reconnaîtront comme étant un militant zélé d'ailleurs de l'UDPS. Donc on ne revient pas sur ça, c'est une perte de temps. Mais du moins, notre frère du Maniema parle de la logique, parce que élection apaisée. Je crois que l'exemple que j'ai donné ici du gâteau, c'est justement pour tendre vers ces élections apaisées. Ce qui importe, c'est le lendemain des élections. Dès qu'on a voté le 23 décembre 2018, dès qu'on aura voté le 23 décembre 2018, il faudra que celui qui sera élu puisse diriger effectivement ce pays en mettant en place le programme des sociétés qu'il aura proposé à la population et que la population aura accepté. Donc là, c'est clair. Tout ce qui se dit en dehors de la logique, c'est vraiment de la chamaillerie. C'est comme ça que je vous ai dit lors de ma première prise de parole que je devrais nettoyer certaines choses
Vous avez à peu près une minute pour
le président. Mon avis, une minute certainement ça ne suffira pas, mais il a parlé de 16,6% d'empreintes de gens enrôlés sans empreinte digitale. Je crois que ce débat aujourd'hui il est dépassé, étant donné que nous avions tous demandé, ou du moins au niveau de la majorité présidentielle, il a été demandé à ce qu'on revienne au cas par cas. Parce que ce sont des citoyens congolais. Les empreintes digitales, ce n'est qu'un des critères parmi le 10 pour identifier un électeur. Ces messieurs qui n'a pas, ou cette femme qui n'a pas d'empreintes digitales, ou qui a des empreintes digitales qui ne sont plus lisibles, a au moins une photographie. Et je crois que, et je l'avais demandé, nous étions en réunion dernièrement avec le président Batumona, il y avait également beaucoup de membres de l'opposition. Nous avons évoqué ces cas ici. C'est une catégorie de concitoyens que nous devons absolument respecter. Nous sommes à l'émission ici. Au sortir d'ici, quelqu'un peut, je ne le souhaite pas, mais quelqu'un peut faire un accident. Il perd 2-3 doigts. Et demain, vous allez dire non, celui-là, il n'a pas droit à participer au vote. Il y a quelqu'un qui était dans la salle qui a évoqué 2011. Je lui ai dit, monsieur, vous avez de la chance parce qu'en 2011, on a exigé que 2 doigts. Aujourd'hui, on en exige 10. Donc, s'il vous plaît, on n'a pas le temps. Donc, sinon, je pouvais m'étendre sur ça. On n'a pas le temps. C'est une catégorie de citoyens. Et moi, c'est vraiment mon credo maintenant. Nous devons respecter cette catégorie de citoyens.
Donc, nous reviendrons à vous.
Et ne pas les admettre au vote le 23 décembre 2018. Ça, c'est vraiment énerver la Constitution. Mais il a également évoqué la perfection du fichier électoral. Ah. Notamment, il a parlé de la commission de suivi qu'on mettrait en place.
Encore 20 secondes
Cette commission de suivi, c'est peut-être dans nos têtes. Mais il n'y a pas à mettre une commission de suivi dans la place. Je me rappelle, et je rappelle au président Batumona, que lors de notre dernière réunion, j'ai posé une question. Toutes les discussions ici autour de l'application des recommandations de l'audit de l'OIF, c'est pour agir pour l'avenir ou est-ce que ça doit rétroagir? Je pense que dans la salle, personne n'a répondu à cette question-là.
Merci,
Gilbert. Donc, évitons la distraction, allons à l'essentiel. Quand la majorité était en train de préparer les élections, il y a une année déjà en mettant en place sa centrale électorale, les autres étaient dans des avions en train de se déplacer entre l'Europe et l'Afrique. Et j'avais dit que ces gens qui se déplaçaient, c'était pour préparer, effectivement, la contestation.
Merci Gilbert, nous en sommes déjà là. Merci Gilbert Mouika. Nous allons revenir à vous pour un mot de conclusion, même si vous avez dépassé un peu de quelques secondes le temps équilibré de la parole. Christian Moleka, c'est à vous maintenant de nous dire un peu ce que vous analysez dans ce commentaire de notre auditeur Évariste.
En se référant aux tergiversations qui ont entouré la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre, il est un rêve d'attendre que le régime qui cherche à conserver le pouvoir après un échec cuisant l'applique à la lettre. Quant à l'exposition de la machine à voter, il est difficile de voir un régime encore capable de décider sur l'avenir de l'État, d'aller se faire censurer visage en non voilé par un peuple qui l'a fait dormir pendant 17 ans par des promesses fallacieuses. En plus, pourquoi la machine à voter ne serait-elle pas exercée comme un épouvantail en vue de voir l'opposition oublier l'essentiel et se faire de bonnes discussions inutiles? La RDC ne tombe pas au paradis. Le rassemblement de l'opposition aurait dû plutôt étudier à déjouer les stratagèmes mis en place par le régime, travailler auprès de l'électeur qui éveillait aussi par des discours creux, au lieu de tomber dans le piège répandu par le régime avec des déclarations qui frisent un aveu de boycott du processus électoral.
Alors, Christian Moleka, que pensez-vous des propositions de nos auditeurs?
Merci, Evariste, pour votre commentaire. Je dirais, Evariste, qu'un accord est la photographie d'un rapport de force. Et c'est un compromis qui est le produit d'un rapport de force. Et lorsque le rapport de force change, c'est peut-être de la réelle politique, c'est cynique, mais lorsque les rapports de force changent, l'accord ne s'applique pas. Donc, dans la réelle politique, la majorité, si elle estime que le rapport de force d'aujourd'hui est favorable, il peut ne pas appliquer intégralement l'accord, d'autant plus que le rapport de force est favorable. C'est à l'opposition de démontrer que le rapport de force n'a pas changé, et pour pousser l'autre camp, au moyen des pressions, à mettre en œuvre ce qui a été décidé. C'est une question de rapport de force. Maintenant, parlons de la machine à voter, je crois que c'est une fixation qui nous met à côté de l'essentiel. Parce que le processus électoral tourne autour de l'électeur. Celui qui est au centre des élections, c'est l'électeur. Et donc, on devrait davantage travailler l'électeur pour gagner les élections. Et si l'opposition, plutôt que travailler les électeurs, les sensibiliser et éduquer politiquement pour avoir des électeurs assez éveillés, avoir une vigilance électorale au niveau des bureaux de vote, mettre la pression sur la CENI pour que l'on affiche les résultats et ensuite compiler. Si on met en place cette stratégie, on ne discuterait même pas de la machine, c'est qu'un processus dans un ensemble. Parce qu'on on focalise sur la machine, comme on a focalisé sur l'audit du fichier, comme on a focalisé sur le serveur, eh bien, on pourra demain enlever la machine, est-ce que ça ferait qu'on ait des élections crédibles? Si aujourd'hui on n'avait pas la machine, est-ce que les élections seront crédibles? C'est une question qu'il faut qu'on se pose. Sans la machine, peut-on accepter les résultats ou non? Je crois que, à un moment donné, nous sommes en train au Congo de perdre l'essentiel. Les élections ne sont que des rites. Des rites qui ne servent qu'à légitimer les décideurs. L'important, c'est la question de développement. Or, au Congo, on a tellement focalisé sur les élections qu'on oublie la question de base, qui est la question de développement du citoyen appauvri, endormi, comme dit Evariste. Et donc, si on reste autour des élections comme une finalité en soi, on ne parlera pas de développement après. Alors, les élections ne doivent nous aider qu'à asseoir des décideurs légitimes qui mettent en place des questions de développement. Donc, c'est vrai, travaillons sur les élections, mais accent davantage notre regard sur les questions de développement qui intéressent la population.
Alors, Christian Moleka, malheureusement, notre émission a un temps imparti et elle est déjà à sa fin. Votre mot de la fin, l'opposition n'a-t-elle aucune chance d'obtenir quelque chose si elle boycottait?
Je pense que de mon point de vue, l'opposition doit certainement continuer la pression, mais travailler davantage en termes de stratégie pour contrer la majorité plutôt que de boycotter le processus.
Alors, Laurent Batoumona, oui, est-ce qu'on peut retenir ce soir que pour le rassemblement, il n'est nullement question de boycotter ou de faire la politique d'achat?
Nous allons continuer la pression pour que les élections se tiennent et que ça puisse avoir lieu dans des conditions fiables. Voilà pourquoi nous demandons. Ça, c'est l'IDPS qui a demandé. C'est le changement de son rapporteur qui traîne jusqu'à aujourd'hui. Alors, nous dirons, c'est encore quoi? Ce n'est pas le jeu de la majorité.
Vous pensez que si on change de rapporteur et qu'on enlève la machine à voter...
Élaguer les 10 millions d'électeurs, retrouver les 2 millions de 4 électeurs, là, les élections deviennent fiables.
Ça commence à faire un peu trop, mais votre message est passé.
Les 10 millions d'électeurs, comme vous le dites, mais c'est pas 10 millions, c'est autour de 6 millions. Les gens enregistrés sans lisibilité d'empreinte digitale ne seront pas élagués. Alors, c'est clair parce que ce sont des citoyens congolais. Nous devons agir dans le respect de la Constitution. Ça, c'est d'un. De deux, vous avez évoqué ici un secrétaire particulier d'un ministre, c'est-à-dire que vous le connaissez
10 secondes.
Qu'il y a des cartes d'électeurs. Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait jusque-là pour que la justice puisse mettre la main sur ces secrétaires particuliers qui disposeraient des cartes d'électeurs en surnombre.
Merci. Et Jean-Claude Nsiala était à la mise en onde. Jean-Claude Nsiala à la mise en onde. Guy Maté à la réalisation. Supervision Pelé Kipela Mondo. Dona Madimba, c'est moi à la présentation. Dialogue entre Congolais pour ce soir, c'est fini. Merci de votre participation et de votre attention. Au revoir. À la prochaine.